Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral. Nous nous retrouvons ce mois-ci avec Philippe et Pauline du Cercle des conteurs du Briançonnais. Aujourd'hui, dans votre émission Conte aux quatre vents, nous partons en Perse, puis au Sénégal, avec Pauline, avant de revenir en des lieux certes imaginaires, mais qui vous paraîtront plus familiers avec Philippe. Pour commencer, Pauline nous conte un classique perse. Ce soir, à Samarcande.
Un matin, le calife d'une grande ville voit accourir son premier vizir dans un état de vive agitation. Il lui demande les raisons de cette apparente inquiétude. Et le vizir lui dit « Je t'en supplie, laisse-moi quitter la ville aujourd'hui même. Pourquoi ? Ce matin, en traversant la place pour venir au palais, je me suis heurté à l'épaule. Je me suis retourné et j'ai vu la mort qui me regardait fixement. » « La mort ? Oui, la mort. Je l'ai bien reconnue, toute drapée de noir avec une écharpe rouge. Elle est ici et elle me regardait pour me faire peur. Car elle me cherche, j'en suis sûr. Laisse-moi quitter la ville à l'instant même. Je prendrai mon meilleur cheval et je peux arriver ce soir à Samarcande. » « Était-ce vraiment la mort ? En es-tu sûr ? » ?»« Totalement sûr. Je l'ai vue comme je te vois. Je suis sûr que tu es toi et je suis sûr qu'elle était elle. Laisse-moi partir, je te le demande. » Le calife, qui a de l'affection pour son vizir, le laisse partir. L'homme revient à sa demeure, selle le premier de ses chevaux et franchit au galop une des portes de la ville en direction de Samarcande. Un moment plus tard, le calife, qu'une pensée secrète tourmente, décide de se déguiser, comme il le faisait quelquefois, et de sortir de son palais. Tout seul, il se rend sur la grande place au milieu des bruits du marché. Il cherche la mort des yeux et il l'aperçoit. Il la reconnaît. Le vizir ne s'est pas trompé. Il s'agit bien de la mort. Haute et maigre, de noir habillé, le visage à demi dissimulé sous une écharpe de coton rouge. Elle va d'un groupe à l'autre, dans le marché, sans qu'on la remarque, effleurant du doigt l'épaule d'un homme qui dispose son étalage, touchant le bras d'une femme chargée de mantes, évitant un enfant qui court vers elle. Le calife se dirige vers la mort. Celle-ci le reconnaît immédiatement, malgré son déguisement, et s'incline en signe de respect. « J'ai une question à te poser, » lui dit le calife à voix basse. « Je t'écoute. Mon premier vizir est un homme encore jeune, en pleine santé, efficace et probablement honnête. Pourquoi ce matin, alors qu'il venait au palais, l'as-tu heurté et effrayé ? Pourquoi l'as-tu regardé d'un air menaçant ? » La mort paraît légèrement surprise et répond au calife. « Je ne voulais pas l'effrayer. Je ne l'ai pas regardé d'un air menaçant. Simplement, quand nous nous sommes heurtés par hasard dans la foule et que je l'ai reconnu, je n'ai pas pu cacher mon étonnement, qu'il a dû prendre pour une menace. » « Ah, et pourquoi cet étonnement ? » demande le calife. « Parce que, répond la mort, je ne m'attendais pas à le voir ici. J'ai rendez-vous avec lui ce soir à Samarcande. » À chacun sa nature, conte du Sénégal. Un jour de soleil droit, Yambé l'abeille invite son voisin, Mbot le crapaud, à dîner à sa table. Mbot est ravi. On lui a dit que Yambé l'abeille préparait un mets dont elle seule connaissait le secret. Mbotte le crapaud quitte son marigot d'une joie bondissante. Au seuil d'une souche creuse, alvéolée sur tous ses murs, le crapaud Yambé se salue, à grand renfort de civilité, de sourire et de paix offerte. Puis, au moment de passer à table, et selon la tradition du pays, qui veut qu'on pose les doigts de la main gauche sur le rebord du plat commun, pour signifier tout le respect qu'on garde envers l'ami en présence, Mbotte pose ses doigts sur le rebord d'une calebasse toute remplie de miel doux. Yambé l'abeille s'étonne. « Tes pattes sont sales. Va vite, s'il te plaît, les laver dans le fleuve tout près. » Mbotte va plonger ses doigts dans l'onde claire, revient à la maison de Yambé en sautillant sur le sentier. « Mais tu es encore plus boueux que tout à l'heure, lui dit l'abeille. Retourne au fleuve, tu es vraiment très maladroit. » Mbotte le crapaud retourne sur la rive, lave ses doigts encore. Mais de retour chez l'abeille, ses pattes sont aussi sales qu'auparavant. Yambé, aveugle à la condition du crapaud qui, pour se déplacer, ne peut s'envoler comme elle dans les airs, sans retomber de tout son poids, le renvoie donc encore une fois. « Serais-tu incapable de propreté? Comment t'a-t-on éduqué ?» Impatiente, affamée, Yambé commence à manger, sans plus attendre son convive, indigné par sa maladresse. Cette fois, le crapaud revient tout suant de honte et les pattes crottées, autant par la poussière que par le regard inquisiteur de sa voisine. Au retour de son septième voyage, il trouve la calebasse vide. Yambé l'abeille a festoyé seul, finalement. Mbotte le crapaud rentre chez lui, la faim au ventre et l'œil triste, déçu, humilié. Il souffre de n'avoir pu honorer le festin. Il maudit ses pattes sempiternellement embourbées, la forme palmée de ses doigts et la longueur de ses cuisses. Pleure beaucoup. Décidément, il est une créature abjecte, puisqu'il ne sait pas voler. Après quelque temps, désireux de se faire pardonner sa nullité, Mbotte le crapaud convie Yambé l'abeille à dîner dans sa maison de feuillage. La butineuse accepte, curieuse, étonnée même. Mais le soir venu, au moment où celle-ci survole de ses ailes bourdonnantes la calebasse toute remplie de victuailles pour y plonger ses lèvres fines, Mbotte le crapaud sursaute. « Cher ami, pardonnez-moi, vous faites vraiment trop de bruit. J'aime manger en silence. Pourriez-vous laisser votre tam-tam dehors ?» Yambé sort et revient, puis sort encore. Cette fois, elle tente de mettre fin au vrombissement de son tambour. Rien à faire. Elle bourdonne toujours autant. À son septième aller-retour, la calebasse est nettoyée. Mbotte le crapaud, impatient, affamé, l'a récurée jusqu'au fond. Yambé rentre chez elle, le ventre creux, la larme à l'œil. Elle accuse ses ailes, tire dessus, tente de les arracher. Elle se découvre incapable de s'envoler sans troubler la paix du silence. Serais-je donc, moi aussi, fille de l'imperfection? Alors, lui revient en mémoire la désolation du crapaud, ses pattes sur la calebasse, le regard noir qu'elle lui a porté. La honte lui saisit le cœur, et le remords avec les pleurs. Ainsi sont faites les abeilles, se dit-elle, ainsi donc sont faits les crapauds. Depuis, Yambé l'abeille et Mbotte le crapaud ont appris leurs différences Ils ont souffert pour cela. Mais aujourd'hui, ils se regardent d'une toute autre manière. Et c'est bien ainsi.
Regarde. Ce cousu d'or, chaque matin, monte en haut de la colline avec son jeune fils. Arrivé en haut, il ouvre largement les bras et lui dit « Regarde !» Tous ces champs, ces oliviers, ces vignes, ces orangers, et même ces champs de maquis, tout cela nous appartient. Je n'ai pas ménagé ma peine pour en arriver là. Toi, tu devras te battre pour conserver tous ces biens. Sois fier et sois fort. Chaque matin, un homme pauvre monte la même colline avec son enfant de 10 ans. Arrivé en haut, il respire l'air bleu des sommets. Le père ouvre ses bras et dit à son fils « Regarde, nous sommes vivants, sous le ciel immense, dans l'infinie beauté du monde. » Les cils du loup. Sur le flanc de la montagne brille une lumière bleue. Là-haut vivait un forgeron et sa fille, Catherine. Catherine chantait du matin au soir et son chant caressait le monde. Le forgeron fabriquait de beaux outils, de ces outils qui enchantent la main du paysan ou de l'artisan. Leur vie était tendre, la flamme brûlait claire. Un jour, après des années et des années de veuvage, le forgeron épouse une jeune femme. Tout de suite, cette femme n'a pas aimé la vie forte qu'elle retrouvait dans le regard, le sourire et les gestes, la voix de Catherine. Elle a étouffé ses chants sous les reproches et le travail. Partout, elle allait dire que la jeune fille se prélassait, qu'elle souriait aux hommes et qu'elle dépensait partout l'argent de la famille. Ses mots étaient durs, froids, cassants. L'amour du père gelait. Un soir d'hiver, il a chassé sa fille. Ce soir-là, Catherine court sur les chemins. Elle traverse une forêt et là, elle tombe sur une auberge. Sur la porte, il y a un écriteau. Ici, on ne fait pas de cadeaux. Alors, contre une soupe chaude, elle donne son manteau. Elle attend, sous les étoiles, le propriétaire de l'auberge, au regard porcin, la montre au client aviné. Elle s'en va en courant. Elle court dans la forêt. Son pas fait vibrer le silence. Elle voudrait mourir, elle sent son cœur battre à toute force. Alors, elle trébuche, elle tombe par terre et elle se met à crier. Son cri glisse sur le sol, file entre les arbres, rebondit aux cristaux des branches. « Loup ! Loup ! » Crocs luisant, bruit de branches cassées, un loup arrive à ses pieds. Alors Catherine ferme les yeux et lui dit « Mange-moi !»« Non, Catherine, je ne mange pas les humains véritables. Ta vie sera belle, mais pour cela, tu dois apprendre à distinguer les êtres de cœur. » Le loup arrache 2 de ses cils et les remet à Catherine. « Désormais, tu ne donneras ton amour qu'à ceux qui passeront devant les cils du loup sans changer de visage. » Puis le loup repose Catherine du bout de son museau chaud. Catherine redescend dans la vallée. Aujourd'hui au village, c'est dimanche, c'est jour de fête. Tous ces gens bien habillés, mais en qui avoir confiance? Alors Catherine met sur ses yeux les cils du loup. Aussitôt le notaire se met à braire. Une matrone dodue vient picorer des miettes dans le bas des pattes du boucher au regard aviné. Le banquier se met à braire et à lécher la gorge de la fleuriste. Partout ce ne sont que claquements de dents, souffles rauques, hurlements. Partout il n'y a que des gueules, des trognes, pas un visage. Alors Catherine s'en va, terrifiée. Elle quitte le village et devant le pont qui franchit la rivière, elle rencontre un jeune charbonnier. Le jeune charbonnier passe devant les cils du loup et lui ne change pas de visage. Alors Catherine suit le jeune homme. Il monte par des chemins escarpés pendant des heures. Ils arrivent enfin dans une clairière. Là, il y a un feu qui couve. Le jeune charbonnier souffle sur les braises, rajoute du bois, accroupi. Et, voyant Catherine, il lui fait signe de venir s'asseoir à côté de lui. Leur vie est nue, l'amour les prend tout de suite. Le lendemain matin, Catherine va plonger dans le torrent aux eaux glaciales. Elle sort de l'eau, les mains pleines de rayons de soleil. Des pépites d'or. Le torrent du charbonnier charriait des pépites d'or. Avec tout cet or, ils achètent une auberge. La maison est ouverte au soleil, aux arbres, aux oiseaux, à la course des biches, aux brumes bleues. Du plus humble au plus riche, chacun y trouve sa place. Et lorsque Catherine chante, le cœur des hommes frémit. Sa voix caresse le monde de la terre au ventre, du ventre au cœur, du cœur au ciel. Chacun retrouve son vrai visage. Et lorsque les hommes quittent l'auberge, ils ont tous une étoile au front. Quelque temps plus tard, un soir, le forgeron rentre dans l'auberge. Il est méconnaissable. Il est avec d'autres mendiants. Il va se réfugier au fond de l'auberge en tournant le dos à la forêt. Mais quand il entend Catherine chanter, il ferme les yeux, alors son cœur rougit, son cœur brûle, il y a si longtemps. Et lorsqu'il rouvre les yeux, son âme lui est revenue. Son cœur a été lavé, son ventre est redevenu vivant et ses jambes se sont enracinées de nouveau. Il ouvre ses bras et accueille sa fille. Là-haut, le forgeron au cœur de braise, le jeune charbonnier à la source d'or et Catherine au cil du loup se sont retrouvés. Là-haut, ils rendent toujours aux hommes leur visage perdu.